le centre culturel de l'archevêque Makarios III. Bienvenue au centre culturel de l'archevêque Makarios III. Nous vous souhaitons une agréable visite du musée byzantin de notre centre, ainsi qu'un merveilleux voyage dans le temps. Vous allez assister à 1500 ans d'histoire et d'art de Chypre et de l'Europe, une longue histoire qui va se dérouler sous vos yeux. Nous vous souhaitons donc un bon voyage. Le musée byzantin du centre de l'archevêque Makarios III a ouvert ses portes au public en 1982. Il se trouve au rez-de-chaussée du centre et comporte trois grandes salles. Le musée d'art byzantin conserve la plus importante collection d'objets de la période byzantine de l'île. Il abrite des mosaïques, des icônes byzantines, des fresques murales et des objets d'art mineur. La fondation du centre culturel de l'archevêque Makarios III est due à l'initiative de Mgr Makarios III, archevêque de Chypre, puis président de la République. Cette initiative a été reprise plus tard par l'archevêque Chrysostome et par le président de la République de Chypre, Spyros Kyprianou. C'est à ce moment, en 1978, que l'accord portant sur la fondation du centre a été signé. Le centre culturel est composé du musée byzantin, de la galerie d'art, de la bibliothèque et du bureau des publications. L'idée de la création du musée byzantin a commencé après le transfert par les Ottomans de l'administration de Chypre à la Grande-Bretagne en 1878. Quelques années plus tard, en 1883, a été construit le musée archéologique de Chypre. À cette même époque, des trafiquants exportent illégalement des antiquités byzantines pour les vendre à l'étranger, comme l'illustre le vol des trésors de Lamboussa, à Kyrenia. Par la suite, afin de lutter contre le vol des antiquités et de protéger les monuments religieux, le Saint-Synode de Chypre adoptera, en 1920, un règlement assurant la protection et la préservation de ces œuvres d'art chrétiennes. Plus tard encore, le Saint-Synode décidera de créer le musée chrétien afin d'y conserver toutes ces œuvres d'art sous la direction d'une diplômée d'archéologie chrétienne. En dépit de tous ces efforts, les vols d'antiquités se poursuivront. Aussi fut-il décidé de rassembler et de conserver ces œuvres dans les diocèses et l'archidiocèse. Après l'indépendance de Chypre, en 1960, la protection du patrimoine a commencé à mieux s'organiser. Et à partir de 1967, de grandes expositions représentatives de l'art religieux de l'île dans son ensemble seront présentées à l'étranger. En 1972, l'archevêque Makarios III décide de la création d'un laboratoire de conservation d'icônes et de manuscrits au monastère de Saint-Spyridon, à Tremetusia, et de fonder le musée byzantin. Malheureusement, l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974 a entraîné la destruction et la vente illégale de beaucoup d'icônes de Chypre à l'étranger. Le laboratoire ayant été occupé par les Turcs, en 1974, il fut décidé de créer, 5 ans plus tard, le musée byzantin. L'icône de la Vierge Marie de Blackern, temple de la Vierge Phanéroménie, Nicosie, 9e siècle. La petite icône de la Vierge, appelée Blackern, provient du temple de la Vierge Phanéroménie à Nicosie, qui date du 9e siècle, c'est-à-dire du temps des invasions arabes. Les icônes caractéristiques de cette période représentent la Vierge de face, regardant droit devant elle et portant le Christ en le maintenant devant elle dans un cercle. Cette représentation apparaît pour la première fois dans le temple de Blackern à Constantinople. En observant de plus près l'icône, nous pouvons également voir que la représentation du Christ est presque effacée, tandis que la Madone est, elle, encore bien visible. Elle a été faite d'une multitude de couleurs mélangées dans une sorte de cire, technique qui exigeait que la cire soit brûlante. Ce procédé a été beaucoup utilisé en Égypte pour la fabrication des figures des Phagium. Ce sont en fait les grands yeux en amande de la Vierge qui font référence à ces portraits égyptiens. Icône de la Vierge trônant avec des moines du temple de Saint Cassien à Nicosie et de Saint Nicolas du Toit avec des donateurs du temple à Cacopétria, fin du XIIIe siècle. Emplacement à droite de l'entrée du musée. Les deux grandes icônes, celle de la Vierge assise sur un trône avec des carmélites et des donateurs du temple de Saint Cassien à Nicosie, et celle de Saint Nicolas de Stégis, Saint Nicolas du Toit, du temple de Cacopétria, appartiennent à la deuxième moitié du XIIIe siècle, c'est-à-dire à la période post-byzantine qui coïncide avec la période de l'occupation franque. Ces deux images présentent des similitudes dans leur technique de fabrication, tempéra à l'œuf sur bois et dorure à la feuille d'or. La base de l'icône est constituée de deux grandes planches à étoffe. Les planches sont creusées, formant de larges cadres des deux côtés et un arc trilobé sous lequel sont représentées la Vierge et Saint Nicolas. De plus, les deux images sont constituées de deux sections représentant dans la première les miracles de la Vierge et dans la deuxième la vie de Saint Nicolas. Les similitudes variées de ces deux icônes font estimer qu'elles proviennent du même atelier. Nous remarquons que l'image de la Vierge contient beaucoup d'éléments occidentaux. Elle est représentée dans le style occidental qui est celui de la Panaya tis Skepis, la Vierge de Skepi, protégeant de son voile un groupe de carmélites. Les scènes des miracles de la Vierge sont en effet inconnues dans l'art byzantin, puisqu'il s'agit d'un terme religieux catholique avec des inscriptions latines. Les visages du Christ et de la Vierge sont recouverts d'une couche de peinture datant du XVIIe siècle. Par contre, les scènes représentées dans l'icône de Saint Nicolas sont répandues dans l'art byzantin et sont suivies d'inscriptions grecques. L'inscription de l'icône de Saint Nicolas Tistegis, c'est-à-dire de Saint Nicolas du Toit, nous informe qu'elle a été peinte pour le monastère de Troodos. En bas de l'image sont représentés les donateurs. Il s'agit d'une famille occidentale constituée d'un chevalier, son épouse, sa fille et son cheval. Ces deux icônes, l'une avec des inscriptions latines et l'autre avec des inscriptions grecques, prouvent l'existence d'ateliers mixtes au cours du XIIIe siècle à Chypre, produisant des œuvres non seulement pour les Grecs, mais aussi pour les peuples latins. En même temps, c'est une preuve que les nobles de l'Occident étaient respectueux de l'Église orthodoxe et lui faisaient des dons, offrant par exemple des icônes, comme c'est le cas à Saint Nicolas de Stégis. L'image de Sainte Marine, sanctuaire de Sainte Marine à Pédoula, XIIIe siècle. Placement, en face de l'image de la Vierge de Blackern, au premier meneau, à droite. L'icône de Sainte Marine est du XIIIe siècle. Elle provient du sanctuaire de Sainte Marine à Pédoulas et est ornée de décorations en relief. Autour de la figure de la Sainte, nous remarquons plusieurs scènes représentant sa vie et son martyre. Malheureusement, beaucoup d'entre elles présentent de multiples détériorations. Ces détériorations sont dues à la destruction de la base de l'icône et à la peinture sur feuille de métal. En observant la figure de la Sainte, nous pouvons remarquer une mise en valeur de la forme de son visage, accentuée par la couleur rouge et les proportions réduites de son visage. L'icône est caractéristique de la production artistique du XIIIe siècle à Chypre, connue sous le nom de Maniera Cypria. Un style qui a évolué au cours de la période médiévale de l'art byzantin ainsi que durant la période des croisades. L'image est ornée de moulures en marbre. Ces décorations en marbre présentent divers motifs de plantes et de fleurs de lys, symboles de la dynastie des Lusignans qui régna sur Chypre. Image de Saint Jean-Baptiste de l'église de Panaya Asinou à Nikitari, début du XIIe siècle, et de la Vierge Glycophilousa de l'église de la Vierge Chrysalignotissa, Nicosie, XIIe et XVIe siècle, emplacement sur la partie droite du premier panneau central quadrangulaire. Les icônes de Saint Jean-Baptiste, de l'église de Panaya d'Assinou, de l'église de la Vierge du Doux Baiser, en grec Glycophilous, et enfin celle de Saint Jean-Baptiste de l'église de la Vierge Chrysalignotissa, à Nicosie, datent du XIIe siècle et appartiennent au style de la période médiévale de l'art byzantin, une période très riche de l'art byzantin à Chypre, comptant de nombreux chefs-d'œuvre, comme par exemple les peintures murales de Panaya d'Assinou, de Panaya d'Antricomo, de Panaya d'Araka, de Panaya Afentrika à Koutsouventi, à Englistra, de Saint Néophytos à Paphos, des saints apôtres à Pera Chorio, à Antiphondi et ailleurs. Les caractéristiques de la période médiévale de l'art byzantin ont aussi influencé l'art du XIIIe siècle à Chypre, connu sous le nom de Maniera Cypria. Ces caractéristiques sont reconnaissables à certains indices, comme de grands yeux en amande et de longs nez. L'icône de Saint Jean-Baptiste présente des similitudes techniques avec les peintures murales d'Assinou, qui datent de 1105-1106. Les seuls éléments du XIIe siècle que nous pouvons encore déceler dans l'icône de la Vierge Glycophilousa sont les visages du Christ et de la Vierge, tandis que les autres parties sont du XVIe siècle. Les caractéristiques de cette période du XIIe siècle sont particulièrement manifestes dans les particularités du visage, dans l'expression de leur spiritualité, dans le nez, aquilin et long, et enfin dans les ombres soulignant les yeux et les lèvres. Les icônes du Christ et de la Vierge, de l'église de Panaya d'Araka à Lagoudera, XIIe siècle. Emplacement, sur les parties droite et gauche du deuxième séparateur central quadrangulaire. Ces deux icônes proviennent de l'iconostase du temple de Panaya d'Araka. Nous remarquons que ces deux icônes sont en creux à l'intérieur, créant ainsi une sorte de cadre autour de la figure centrale. Dans l'icône du Christ, nous remarquons que les figures des saints sont représentées dans le panneau qui se trouve autour de la figure centrale, c'est-à-dire celle du Christ. Dans ce panneau, Nous pouvons également voir une inscription sous forme de dédicace. De plus près, on remarque que le panneau autour de l'icône de la Vierge ne comporte pas de figure de saint, mais de multiples lignes et plusieurs formes quadrangulaires. Des marques de clous subsistent autour de la tête du Christ qui proviennent du halo lumineux, métallique, en argent ou en or qui l'ornait, lequel a disparu. Précisons qu'à l'origine, les halos étaient fabriqués d'un métal précieux, mais qu'à la suite de l'invasion de Chypre par les Francs, la situation économique de Chypre s'est dégradée, ce qui explique qu'ils furent par la suite remplacés par des décorations moins coûteuses, comme l'illustrent les moulures décoratives en marbre. Enfin, les halos étaient ensuite couverts par une feuille d'or ou d'argent. Les vêtements de la Vierge sont ornés de trois étoiles en forme de croix sur la tête et les épaules. On remarquera ensuite que contrairement à l'icône de la Vierge, celle du Christ est encore en bon état et qu'on peut admirer les détails dont l'artiste l'a ornée. On pense que l'artiste qui a peint ces icônes est Théodoros Absentis, un peintre de Constantinople qui a réalisé beaucoup de peintures murales à Englistra, à Saint Néophytos à Paphos, ainsi que quelques peintures murales de l'église de Panaïa d'Araka. Dans cette icône, les contrastes de couleurs sont impressionnants, avec des couleurs froides et chaudes, vert-rouge, rouge-bleu, et des métaux, argent et or, et une sorte de dynamique, comme par exemple dans la barbe du Christ. Cette icône est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art de la période médiévale. Les images de Jésus-Christ, avec des anges et des donateurs, de Saint Libertin, de Sainte Paraskevi, de l'église de la Vierge Chrysalignotissa, Nicosie, 1356, début du XVe siècle. Emplacement, sur le mur gauche, entre les premiers et deuxièmes meneaux. Au cours du XIVe siècle, l'art de la période des paléologues se diffuse petit à petit à Chypre, grâce aux relations avec Istanbul. Les trois icônes, très larges, qui couvraient les piliers ou l'intérieur des églises, sont un des exemples de ce type d'art. Ce sont des images qui rendent hommage aux morts, comme dans la partie basse de la composition. L'icône représentant le Christ, accompagné d'anges et de donateurs qui date de 1356, est particulièrement importante, car elle est la seule dont on connaît la date exacte. En regardant de plus près l'icône, on remarquera, sous le trône de Jésus, les figures de deux anges qui prient, ainsi que celles des donateurs, Manuel et Ephimia Xirou, accompagnés de leur fille morte, Maria. Il s'agit d'une icône commandée par les parents en mémoire de leur fille morte. Le portrait de celle-ci présente des similitudes avec ceux des plaques funéraires gothiques qui représentent le mort dans une perspective frontale. La dimension, inhabituellement longue de l'icône, rappelle celle des trois autres icônes du musée byzantin provenant de l'église de la Vierge Chrysalignotissa à Nicosie. Cette église abrite des dizaines d'icônes provenant d'autres églises de Nicosie qui ont été démolies pendant l'occupation vénitienne. Les nouveautés qui apparaissent dans l'art des paléologues sont perceptibles dans la composition plus vivante des icônes. Les couleurs y intensifient les volumes, donnant plus de douceur au visage des personnages, avec le souci d'interpréter leur psychologie. On remarque également un souci de mise en perspective des objets. Par exemple, dans l'image du Christ qui est représenté assis sur un trône, le fait qu'il soit projeté en trois dimensions fait s'estomper le trône. Revenant à la figure de la jeune fille morte, au regard mélancolique, nous remarquons qu'elle est représentée avec un luxe de détails. Sur ses cheveux blonds, elle porte un diadème et un collier avec une croix d'or autour du cou. Elle est également vêtue d'un voile de couleur noire comportant différents motifs de fleurs dorées et d'une robe conforme à la mode byzantine de couleur orange décorée de poissons dorés qui forment des parallélogrammes renfermant de petites étoiles. Ajoutons que le portrait de cette fille morte, Maria, présente beaucoup de similitudes avec les portraits funéraires du monastère de Coras. Les parents de la fille morte sont vêtus de vêtements conformes à la mode de l'époque. La mère porte un long voile noir qui couvre sa tête, un bandeau rouge et une robe de couleur rouge foncé ornée de décorations dorées. Le père porte un manteau noir et une veste de l'époque. On peut voir de nombreux personnages de ce type dans d'autres icônes du musée byzantin, comme dans celle de la Vierge assise sur un trône de l'église de la Vierge Chrysalignotissa, et celle d'une autre longue icône provenant de la même église et qui est exposée dans la même salle. Dans ces deux icônes, nous retrouvons le même type de représentation, c'est-à-dire l'image d'une jeune fille debout et de face, représentation qui rappelle celle de l'icône avec la jeune fille morte, Maria. Cette icône présente également des points communs avec celle de Saint Eleftherios, de l'église de la Vierge Chrysalignotissa à Nicosie, comme par exemple dans la manière dont sont représentés les sarcomes, la souplesse des vêtements du Christ et des anges, et les couleurs chaudes. Le mauvais état de l'icône de Saint Eleftherios ne permet pas de vérifier si les deux icônes proviennent du même atelier. Au-dessous de Saint-Eleftherios, nous remarquons de jeunes personnes mortes qui ont les mains croisées. Les couleurs sombres de l'icône de Sainte Paraskevi indiquent que celle-ci est plus ancienne que les autres. La sainte tient une médaille devant sa poitrine représentant le Christ mort, dans le même style que celui de l'icône de Akras Tapinosis, qui illustre le jour du Vendredi Saint. Il s'agit d'un type iconographique chypriote qui correspond à l'iconographie de Sainte Dominique, laquelle est identifiée au dimanche. En bas de l'icône est représenté un personnage mort qui se trouve à Hadès avec Jésus et qui prie, demandant la résurrection de son corps. Le diptyque « Église de l'archange Michel, Lefkoniko, 15e-16e siècle ». Emplacement, deuxième panneau central quadrilatéral. Ce diptyque est une des rares œuvres qui ont été sauvées de l'église de l'archange Michel à Lefkonikos, aujourd'hui encore occupée par les Turcs. Cette œuvre a été préservée car elle a fait partie de la grande exposition internationale Trésor de Chypre entre 1967 et 1973, avant d'être conservée dans les collections de l'archevêché au cours de l'invasion turque de 1974. Sur ce diptyque sont représentées 16 scènes du cycle christologique ainsi que le cycle de la vie de la Mère de Dieu. La représentation de ces scènes commence à gauche, avec celle de la prière des ancêtres, Joachim et Anne, suivie de celle de la naissance de la Vierge, de la présentation de la Mère de Dieu, de la Vierge et des évangélistes, de la naissance du Christ, de la Sainte Rencontre, du baptême du Christ, de la Transfiguration, du Béophoros, des noces de Cana, de la Crucifixion, de l'Ascension dans le style occidental, de la Pentecôte et enfin de l'Assomption de la Vierge. Notons que le style de cette œuvre témoigne du développement de la technique utilisée au cours de la Renaissance à Chypre. Il est probable qu'elle a été importée dans l'île de Venise ou d'une autre région occupée par les Vénitiens pendant le XVe siècle. En effet, on peut y observer des éléments de l'esthétique occidentale, tels que l'architecture gothique des bâtiments, les arcs pointus, la perspective et d'autres éléments caractéristiques de la Renaissance italienne des XIVe et XVe siècles. Béophoros, Église de la Vierge Chrysalignotissas, Nicosie, 1546. Emplacement, troisième panneau à droite. L'image du Béophoros remonte, selon l'inscription, à 1546 et provient de l'église de la Vierge Chrysalignotissa à Nicosie. On rencontre fréquemment ce type de représentation artistique. Mais dans cette icône, l'artiste a volontairement inversé tous les éléments de la composition. L'âne de Jésus est placé à droite et la ville de Jérusalem à gauche. La ville de Jérusalem est symbolisée par un bâtiment circulaire situé au centre de l'icône qui représente le temple de Salomon. La scène représente l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, assis sur son âne et suivi de ses disciples. Sur la gauche, devant les murailles de Jérusalem, on remarque la foule des Juifs qui accueillent le Christ. Selon l'Évangile, les enfants assis sur les arbres tiennent des branches, alors que d'autres les disposent à terre pour accueillir Jésus. En bas de l'icône, on remarque une famille noble, les parents avec leurs deux fils. La résurrection du Christ, église de Chrysalignotissa, Nicosie, 1563. Emplacement, troisième panneau à droite. Dans cette icône de type byzantin, nous avons la représentation de la résurrection du Christ, aussi appelée la descente du Christ aux enfers. Sur cette icône, le Christ est représenté sous terre dans le séjour des morts. Vigoureusement dressé au centre de la composition, il piétine les portes de l'enfer et sort de leur tombeau Adam et Ève. Derrière lui, on aperçoit les prophètes. Sur la gauche, on peut voir Jean-Baptiste, Salomon et David, ainsi que d'autres rois prophètes de l'Ancien Testament. La gloire du Christ est représentée par deux anges. Celui placé à droite tient dans ses mains la représentation de la résurrection. Un drapeau avec une croix rouge. Enfin, à côté d'Adam, est représentée la figure morte de Ménikos Pelikanos. Selon l'inscription, c'est la famille de cet homme qui a fait don de cette icône en 1563. La Vierge Osigitria, avec des anges et ses donateurs, église de Saint Cassien, Nicosie, 1529. Cette icône type représente la Vierge Marie, qu'on nomme Osigitria, conductrice. La Vierge Osigitria est représentée assise sur un trône, le bras gauche portant le Christ et sa main droite posée sur sa poitrine. L'enfant, Christ, tourne le regard vers Marie. L'enfant bénit et tient à la main un petit rouleau fermé. Au coin de l'image sont représentés l'archange Michel et l'archange Gabriel, les mains respectueusement voilées et en position de vénération. En bas de l'icône est représentée sur fond vert une église soutenue par deux anges. Cette église est divisée en trois nefs par des colonnes, la nef centrale étant plus haute que les autres. Sur le côté nord de l'église et sur un arc triomphal est représentée la Vierge Vrefocratusa dans le style de la Vierge Glycophilus. Au-dessus de cet arc, nous remarquons une inscription contenant une inscription dédiée au donateur de l'icône, à Boua et à sa femme. Ce couple est représenté au-dessous de la Vierge, priant et vêtu de vêtements de l'époque. Il est probable que les donateurs de cette icône soient les mêmes que ceux de l'église de la Vierge qui n'a pas été sauvée. Cette icône type est inspirée d'un chef-d'œuvre italien intitulé Notre-Dame de Lorette. Dans cette icône est représenté un groupe d'anges transportant la petite maison de la Vierge de Nazareth à Lorette. Icône du jugement dernier des églises de Panaia Phanéroméni à Nicosie et de Saint-Anargyre du VIe siècle. Emplacement sur le côté nord du mur entre les 4e et 5e panneaux à gauche. En suivant les images du jugement dernier, nous remarquons que la scène du jugement dernier est organisée selon un axe diagonal représenté par une rivière de feu qui se jette dans l'enfer. En haut et au centre de l'icône est représenté le Christ érigé en juge à côté de Jean-Baptiste et de la Vierge, entouré des apôtres et d'une foule d'anges. À ses pieds, on peut voir les symboles des évangélistes et des martyrs attendant l'heure du jugement. Sur la droite de l'icône, on aperçoit l'archange Michel, l'épée dressée et menaçant un groupe de personnes. Autour sont représentés l'enfer, la terre, la mer, le ciel et certaines expressions de la souffrance des pécheurs. Sur la gauche est représenté le paradis. Devant les portes du paradis se tient Saint-Pierre, tenant les clés du paradis, suivi des justes. Au paradis sont représentées la Vierge, assise sur un trône au milieu d'anges, Abraham, avec à ses pieds le pauvre Lazare, et d'autres justes. Au pied de la Vierge est représenté le donateur de l'image, l'archiprêtre Maxime. Au-dessous du paradis, nous remarquons les quatre rivières du paradis, tandis que plus bas est représenté le riche de la parabole brûlant dans l'enfer et demandant à Abraham de lui donner un peu d'eau. À sa gauche, des diables attirent un couple. Au dernier niveau de l'icône sont représentées en cinq colorations différentes les âmes des martyrs. Ces icônes sont remarquables par la variante de leurs couleurs, la présence de divers éléments d'inspiration occidentale et par l'expression de la perspective. Tous ces éléments font penser à ceux de l'art de la Renaissance qui a beaucoup influencé l'art de Chypre. L'Assomption de l'église de l'archange Michel, Tripioti, Nicosie, XVIe siècle. Emplacement, 4e panneau à gauche. Cette icône comporte plusieurs scènes. L'Assomption de la Mère de Dieu, la scène du prêtre juif Jéphonia et l'arrivée des apôtres. Dans sa partie centrale, la Vierge est allongée sur un lit de parade pendant que le Christ, entouré d'anges, d'apôtres et de disciples, emporte l'âme de la Vierge. Sur l'avant-plan de l'icône, la scène de Jéphonia est représentée avec l'archange Michel lui tranchant la main pour l'empêcher de renverser le corps de Marie. En haut de l'icône sont représentés les apôtres ainsi que l'Assomption de la Vierge. À côté de la scène de Jéphonia, toujours sur l'avant-plan, on remarque une représentation du donateur de l'icône, un jeune homme vêtu de vêtements vénitiens. Sur le fond, on remarque une architecture de forme triangulaire ressemblant au pont du Rialto à Venise. La composition de l'icône, la palette de ses couleurs vives, le naturalisme des personnages ainsi que la manière dont leurs vêtements sont représentés font de cette œuvre un modèle du style de la Renaissance à Chypre pendant l'occupation vénitienne. Saint-Nicolas, église de la Vierge Chrysalignotissa, Nicosie, XVIe siècle. Emplacement, 5e panneau à gauche. Le saint, représenté de face sur un fond doré, comme un vieil homme rond et chauve, tel que nous le connaissons déjà à travers l'iconographie de Dionysos de Fourna, Herminia Tisographicis Technis, interprétation de l'art de la peinture, est représenté selon le style qui a été établi dans la peinture crétoise du XVe siècle, connue par les œuvres de Ritsos. Saint-Nicolas est représenté en train de bénir de sa main droite, tandis que dans sa main gauche, il semble tenir sous sa chasuble l'évangile fermé. Remarquons que les pages de l'évangile sont d'une couleur rouge foncé, tandis que sa couverture est de couleur jaune décorée de pierres précieuses. Le saint est vêtu d'habits épiscopaux, d'une chasuble rouge, d'une tunique à manches longues avec un décolleté et d'un scapulaire blanc décoré de croix noires. À droite et à gauche de la tête du saint, sur le fond doré de l'image, sont représentés le Christ et la Vierge regardant du côté du saint et en lui offrant le titre d'épiscope. La Vierge est vêtue d'un manteau de couleur rouge foncé, les mains couvertes, et offre à Saint-Nicolas un scapulaire décoré de trois croix en or. Le Christ, qui est représenté à droite du saint, et vêtu d'une tunique longue et d'une dalmatique pâle. De sa main gauche, tendue vers Saint-Nicolas, il lui offre l'évangile fermé. Enfin, notons que la précision géométrique avec laquelle sont représentés les habits des personnages, la dimension des visages en pleine harmonie avec les couleurs de l'icône, et enfin, la technique utilisée, nous rappelle l'art crétois du XVIe siècle qui imite les œuvres de Andreas Ritsos. En bas de l'icône sont représentés ses donateurs, les parents avec leurs fils, les mains croisées en position de prière. Les hommes sont représentés à gauche, portant de larges chapeaux et des manteaux noirs, tandis que la mère, qui est représentée à droite de l'image, a la tête voilée d'un linage blanc et d'un voile transparent. La donatrice porte une robe large noire, conforme à la mode de la première moitié du XVIe siècle. L'évangélisme de la Vierge, Église de la Vierge Fanéroménie, Nicosie, début du XVIIe siècle, œuvre d'Emmanuel Zanfornari. Emplacement, sur le mur sud, après le cinquième panneau à gauche. L'évangélisme de la Vierge est une œuvre élaborée entre 1570 et 1631 par le peintre Emmanuel Zanfornari de Corfou, qui a vécu et travaillé à Venise. Comme en témoigne la présence d'un grand nombre d'icônes de Zanfornari à Chypre, le peintre a travaillé sur l'île, principalement dans la ville de Larnaca, d'où était originaire son épouse. La date de l'œuvre remonte au début du XVIIe siècle, période pendant laquelle le peintre ne se trouvait pas à Venise. L'œuvre de Zanfornari a réussi à remplir le vide artistique créé par l'absence d'artistes sur l'île, redevable à l'occupation ottomane, en ajoutant des éléments de la peinture crétoise moderne dans la peinture post-byzantine de Chypre. L'iconographie de l'évangélisme de la Vierge suit un modèle qui se répète tout au long du XVIe siècle à Périblepto, au monastère Koutloumoussio et ailleurs. La Vierge met ses deux mains à hauteur de la poitrine, un livre ouvert devant elle. Dans ce livre est inscrite la phrase « Mime deleasis apati ugar egnon idonin » qui provient de la liturgie vespérale. La représentation du livre ouvert dans l'évangélisme est une caractéristique de la culture occidentale. Un exemple en serait l'évangélisme de Florence de Léonard de Vinci. Le tableau de Vinci présente à l'évidence des ressemblances iconographiques avec l'image de Zanfornari, comme par exemple la posture de la Vierge et la représentation du fond du jardin. L'art de Zanfornari offre beaucoup de ressemblances iconographiques avec celui de Marc Batta, ainsi qu'avec celui du grand peintre crétois Michel Damaskinos. La parenté artistique de Zanfornari avec les deux autres artistes tient à la manière dont il utilise des éléments italiens, physiocratiques, comme par exemple la souplesse des plis de vêtements, la perspective, les ornements des architectures, des meubles et d'autres éléments. Dans l'icône, on distingue cependant certaines faiblesses. L'une d'elles tient à la représentation approximative des pieds de la Vierge. Le tableau en mosaïque de l'évangélisme de l'église de Saint-Georges des Grecs à Venise est probablement le prototype de l'image de l'évangélisme. La Société des apôtres de l'église de la Vierge Chrysalignotissa, Nicosie, fin du XVe siècle, emplacement, côté droit du troisième rideau central losanger. Le personnage du Christ se trouve au centre de la chambre, représenté assis sur son trône et accordant des bénédictions à ses élèves, qui sont placés à droite et à gauche de l'icône. L'invitation des apôtres par Dieu est représentée dans l'icône par deux inscriptions qui vont de la bouche du Christ à celle des apôtres. Dans les coins de l'icône, nous remarquons deux emblèmes portant l'image d'un lion tenant une croix. On y lit l'inscription suivante entre les deux emblèmes. « Deicis tu zulu tu seu, Daniil, iu macariti episcopu, Petru, igumenu amathundon. » Le sujet de la Société des apôtres qu'on rencontre dans l'art post-byzantin a été surtout influencé par la symbiose obligatoire avec les hétérodoxes des régions orthodoxes occupées par les Vénitiens, Chypre, Crète, Égée, Ionie et ailleurs. À Chypre, durant l'occupation vénitienne, la Société des apôtres a été représentée sur les voûtes des églises selon le modèle de la double représentation du Christ. L'icône du musée byzantin présente des traits communs avec les peintures murales italo-byzantines de la Société des apôtres de Panaia Poditou à Galata de 1502. Ces traits communs sont, par exemple, la perspective à une dimension, les plis des vêtements, les couleurs vives, les ressemblances physionomiques de certains personnages, la bonne utilisation des techniques de la Renaissance, ainsi que de celles de la période byzantine. On estime que cette icône a été créée au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Cette estimation a été faite d'après l'opposition établie entre la délicatesse des personnages de l'icône et la représentation plus grossière de ceux de Poditou, ainsi que d'après la peinture murale de la Société des Apôtres dans l'église de Timios Stavros, Sainte-Croix, d'Ayas Mati, datée de 1494, qui a été probablement influencée par l'icône du musée byzantin. Malheureusement, les autres éléments de l'icône, comme par exemple l'inscription de l'évêque inconnu nommé Pierre d'Amathunda, ainsi que l'emblème non identifié portant l'image d'un lion, font penser que l'icône date peut-être de la période de l'occupation vénitienne, mais ne donne pas malheureusement assez d'informations pour savoir sa date exacte. La Vierge assise sur un trône entre Saint-Nicolas et Saint-Georges, église de Saint-Georges, Batilly, 16e et 17e siècle. Emplacement, côté gauche du troisième panneau central quadrilatéral. Les diverses destructions et massacres commis pendant l'invasion des Ottomans en 1571 ont obligé les artistes chypriotes et les érudits à abandonner l'île. À la même époque, des icônes sont importées de Chypre, de Crète, d'Heptanissa et de Venise. Par exemple, l'icône que vous avez sous vos yeux vient de Venise. Elle représente la Vierge Vrefocatus, assise sur un trône, entre Saint-Georges et Saint-Nicolas, telles les représentations de type occidental de la conversation sacrée, Sacra Conversatione. Le donateur de l'image est l'archiprêtre Georges, qui est parti de Chypre pour s'installer avec sa famille à Venise, pour devenir le prêtre de l'église des Grecs, Saint-Georges. Selon l'inscription, parmi les donateurs représentés dans la partie basse de l'icône, est aussi représentée l'épouse de l'archiprêtre Georges, Achelou, son fils, Alisios, son frère, Franciscos, sa belle-fille Florenza et son cousin Georges. Cette icône a été faite à deux périodes différentes. La première, datée du XVIe siècle, a été créée par un peintre post-byzantin qui utilisait une technique semblable à celle de Michel Damaskinos. La deuxième a été créée au début du XVIIe siècle par un peintre utilisant une technique conforme au style de la Renaissance italienne de l'époque. L'icône a été expédiée après 1604 par ses donateurs au village de Batilly, occupé par les Turcs. Les peintures murales de Saint-Nicolas de Stegi, Cacopetria, 14e siècle. Emplacement, sur le côté droit du troisième panneau